Aujourd'hui, les jeunes sont en uniforme. Tous pareils, même coupe de cheveux, même groul, même jean, même blouson, même bouffe. Une immense armée. Enfin, ils finiront bien par faire leur évolution. Juliette Gréco lors d'une interview pour l'Express en 2001. Juliette Gréco, née le 7 février 1927 à Montpellier et décédée le 23 septembre 2020 à Ramatuelle, était une chanteuse et actrice française. Tous ensemble pour la réussite, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Chers auditeurs, nous sommes le 7 février 2024. Bienvenue sur Radio Valois-Mulcien dans l'émission Pédago-Rando, animée par l'association Projet Action 60, en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Notre thème du jour, l'uniforme, la tenue vestimentaire. Pour cela, nous recevons Marie-France Contant, membre du Bureau fédéral de délégués départementaux de l'éducation nationale, DDEN, et présidente des DDEN de l'Oise. Marie-France, bonjour.
Bonjour.
Peux-tu te présenter et nous dire ce que c'est que la DDEN ?
Alors, les délégués départementaux de l'éducation nationale sont membres de droit des conseils d'école. Nous sommes des médiateurs, en quelque sorte, des médiateurs entre les responsables de l'institution, l'inspection académique, le rectorat, les parents, les enseignants. Et en fait, nous sommes là pour, dans l'intérêt des enfants, à l'intérieur de l'école et à l'extérieur de l'école.
Et les délégués départementaux sont principalement des anciens professeurs, des anciens de l'éducation nationale ou pas ?
Pendant très longtemps, c'était des anciens de l'éducation nationale, notamment lorsque les enseignants, lorsque les instituteurs prenaient leur retraite à 55 ans. Mais depuis qu'on a reculé l'âge de départ à la retraite, lorsque je m'adresse à des futurs retraités de l'éducation nationale et que je vais leur demander s'ils veulent s'investir dans la mission de DDEN, ils me disent « Ah non, on a trop donné. Mmh. On a trop donné. » Ce qui fait qu'on a du mal à recueillir des nouveaux DDEN, et on en a bien besoin. Maintenant, dans le département de l'Oise, il y a encore beaucoup d'enseignants qui sont DDEN, mais il y a aussi d'autres professions qui interviennent. Leur intérêt, c'est surtout dans l'intérêt pour les enfants.
Oui, peut-être, vous avez peut-être des médecins scolaires aussi ou des infirmières scolaires, non pas trop.
Des médecins scolaires, il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a plus beaucoup, c'est vrai, effectivement.
Il n'y en a jamais eu beaucoup. Et des infirmières scolaires, bah, c'est pareil, elles sont très très occupées, très très prises, elles n'ont plus envie, quoi.
C'est ça.
Voilà.
Et là, maintenant, c'est jusqu'à 64 ans. Donc,
voilà, tout à fait. Donc ça ne va pas aller en s'améliorant, d'autant que la tâche est de plus en plus délicate.
Délicate, et vous êtes des bénévoles.
Totalement.
Voilà. Toujours le problème du bénévolat, c'est ce qu'on dit toujours avec...
Oui.
Voilà.
Sylvie, tu peux nous présenter le thème du mois ?
Bien sûr. Comment va notre école, notre éducation nationale ? Certains diront très mal, d'autres penseront que tout va bien dans le meilleur des mondes. Bref, ayant tous une idée bien différente des uns des autres, le gouvernement tranchera pour nous et nos enfants. Et croyez-moi, ils y ont tous réfléchi. Mais nous, parents, avons-nous les mêmes aspirations ? Avons-nous encore le droit de concevoir l'avenir de nos enfants ? Gérard, ton petit billet d'humour.
Un petit billet d'humour. Or, depuis notre enfance, nous sommes catalogués. Les filles en rose, les garçons en bleu. Que soit n'importe quel métier, nous trouvons des costumes. Qu'on soit une infirmière en blanc, un mécanicien avec sa redingote. Et tout ça pour finir avec un magnifique costume en bois. Alors pourquoi faire autant de scandales pour une tenue vestimentaire à l'école ?
Quelqu'un veut réagir à ce qu'a dit à ce petit billet d'humour ou pas ? Jackie, je te vois faire signe de la tête, non ?
C'est vrai que, en fin de compte, je le redirai après dans le billet d'humeur, mais c'est vrai qu'en fin de compte, je crois que c'est un effet de communication. Et puis,
c'est essentiellement de la communication.
Voilà, je crois que ça n'apportera pas grand-chose.
Ça permet de cacher tout le reste.
Voilà,
quoi.
Ça n'apportera pas grand-chose.
Voilà. Alors, au vu des changements énoncés par Gabriel Attal, nous allons reprendre la tenue vestimentaire unique dès la maternelle. Et hop, il faut habituer ces petits bambins dès le premier âge à se sentir et se conduire comme des élèves, si possible de bons élèves disciplinés. La blouse est en ringarde, mais attention, hein, la blouse n'était pas un uniforme. C'était pour une question d'hygiène à l'époque, hein, et de propreté, car on utilisait un porte-plume et de l'encre qui tachaient effectivement les vêtements. Alors, une réflexion sur la prochaine tenue est ouverte au sein de notre administration. On y reviendra plus tard. On peut se demander pourquoi le retour d'une telle idée, inventée par Napoléon Bonaparte en 1802. Voilà. Gérard, tu peux nous faire un petit topo sur les uniformes? Tu as eu le temps de regarder un petit peu?
J'ai regardé surtout ce qui se passait en Martinique. Donc, comme tu dis, l'uniforme n'est plus obligatoire depuis mai 68 dans la métropole, mais certaines traditions sont toujours bien ancrées en Martinique. Et pour preuve, en rentrée 2022, sur 218 écoles publiques de l'île, un tiers d'entre elles impose l'uniforme. La plupart des établissements l'instaurent dans leur règlement intérieur comme objectif affiché, identifier les élèves, limiter drastiquement les dépenses des familles et par extension, gommer les inégalités. Donc l'uniforme a pu être pensé comme une réponse sécuritaire à l'intrusion et aux raquettes, mais en Martinique, ils sont tous volontaires pour porter la tunique. Le port de l'uniforme étant à la charge des familles là-bas, elle est obligatoire dans l'enseignement primaire, c'est chemisier blanc et jupe bleue pour les filles, et chemise blanche et pantalon bleu pour les garçons. Donc les établissements Guyane, Mayotte, Réunion vont expérimenter cet uniforme avec un collège en Guyane, 4 à Mayotte et 3 à La Réunion. Cela pourrait devenir obligatoire en 2026.
Comme chez nous. Oui. Alors il faut savoir, au niveau de l'Europe, à part Malte, Chypre, Irlande et Angleterre, oui, c'est les quatre pays que j'ai vus, portent vraiment l'uniforme. L'uniforme, c'est vraiment que dans quelques établissements privés. Pour nous, voilà. Il faudra attendre 1968 pour que l'uniforme soit totalement abandonné. Il faut rappeler qu'à cette époque, une crise étudiante très importante a lieu dans les rues. On gardera l'uniforme que dans quelques écoles privées. Mais moi, je me souviens, lorsque j'étais élève, bien disciplinée, j'ai porté une blouse en primaire, c'est-à-dire jusqu'aux années 72 à peu près. Par contre, moi, j'ai une cousine qui a porté la blouse dans un collège marseillais jusqu'en 76, alors que moi, je ne le portais pas du tout dans le collège à Crépy, et alors qu'elle n'était dans un collège qui n'était pas privé. Quels sont vos souvenirs, Marie-France, Gérard et Jackie, sur cette fameuse blouse?
Pour nous, la blouse, c'était obligatoire que pour certains cours.
D'accord.
Par contre, contrairement à ce que je vois quand je vais dans les collèges, point de vue EPS, la tenue sportive était vraiment obligatoire.
Oui,
c'était
effectivement.
Maillot, short et puis tennis pour tout le monde. Alors que maintenant, ils font quasiment leur gym
en tenue
normale. Quoi, hein. Mais autrement, non, l'uniforme, moi, je n'ai jamais porté au collège.
D'accord.
Moi non plus, je n'ai jamais porté d'uniforme.
D'uniforme.
J'ai connu la blouse, mais la blouse, comme ça a été dit tout à l'heure, la blouse, disons, elle était portée pour se préserver des crachotis,
oui,
de la plume sergent-major, mais dès l'instant que la plume sergent-major a été supplantée par le bic,
oui,
il y avait moins besoin de blouse. Donc c'était plutôt pour protéger les vêtements que pour imposer une notion d'uniforme. Mais l'uniforme, effectivement, ça a été créé du temps de Bonaparte,
oui.
Mais pour les lycées.
Pour les lycées seulement, effectivement.
Pour les lycées,
effectivement,
hein. C'était pour les lycées, et Bonaparte, c'était un militaire aussi, donc c'était aussi des lycées militaires, quand
oui,
même, quelque part. Donc c'est tout à fait... On est loin du concept qu'on veut nous imposer aujourd'hui. Hein.
Oui, c'est vrai. Moi, j'avais noté quelque chose. Effectivement, donc, Napoléon, quand il a imposé le port de l'uniforme, il s'est directement inspiré, en fin de compte, de celui de l'armée. Voilà. Et jusqu'en 1914, c'était un peu obligatoire. Puis après, ça a perduré vraiment dans les établissements privés.
Oui, enfin, de toute façon, il ne faut pas oublier que la tenue correcte était quand même exigée. On ne pouvait pas arriver comme maintenant dans certaines tenues au collège.
Tenue.
Hein. C'était strict à l'entrée. Hein.
Oui, mais c'est pour ça aussi que l'uniforme se fait dans certains pays, parce que ça permet d'avoir, comme tu disais, des vêtements propres déjà, et puis être bien habillé, et pas de vulgarité, etc. Et puis ça, Ça permettait aussi peut-être aux parents de ne pas suivre trop la mode. Donc, comme disait tout à l'heure en Martinique, comme tu disais, effectivement, ça permettait aussi de moins dépenser d'argent pour les vêtements. Mais on y reviendra après parce que je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point de vue.
Moi, je voudrais rajouter, si je reviens à mes années d'enseignante, il y a une dizaine d'années bientôt, ce que je reprochais aux élèves, c'est qu'ils étaient déjà en uniforme. C'était le jogging basket du lundi au vendredi soir. Hein. Oui. Du jogging avec lequel ils faisaient du sport, ils ne se changeaient pas. Hein. Donc bonjour la transpiration, bonjour... Et j'ai eu très très peu d'élèves qui venaient avec une tenue de ville et qui se changeaient pour faire du sport. C'était vraiment les exceptions. Et c'était quand même... Et franchement, j'appréciais les élèves qui différenciaient, mais ils n'étaient pas en uniforme. Ils étaient en jean, petite veste.
Voilà.
Et ce n'étaient pas forcément des élèves privilégiés. Hein. Moi, j'étais dans un collège de ZEP, et c'était exceptionnel, l'élève qui fonctionnait comme ça. Les autres, ils étaient tous en uniforme. C'était le jogging.
Jogging, oui, ou jean, oui, effectivement.
C'était le jogging.
Le jogging, oui, voilà. C'est vrai. Alors, la tenue vestimentaire, appelée la tenue unique, va être expérimentée par les élèves dès cette année dans une centaine d'établissements volontaires, de la maternelle au lycée, ce qui représentera environ 25 000 élèves en vue d'une éventuelle généralisation en 2026 suite à l'évaluation de cette expérimentation, qui nous coûtera un petit peu quelques centimes. Cette tenue sera mixte et se composera d'un polo blanc ou gris, d'un pull bleu marine et d'un pantalon gris et d'une blouse pour les élèves de maternelle en plus de cet uniforme. Un scratch devrait aussi permettre à la collectivité d'y apposer son logo, admettons Crépy-en-Valois avec le musée de l'Archerie par exemple. Que pensez-vous de cette tenue hivernale? Car je suppose qu'il existera une autre tenue pour l'été. Alors, c'est une tenue hein, qui est aussi bien la même pour filles et garçons.
Bah, ça change, hein. Ça ne sera plus le,
jaune la petite
pour
jupe.
Le rose pour les filles et le bleu pour les garçons. Ça, ça va changer.
Voilà, la petite jupe avec, pour les filles et le pantalon pour les garçons. Moi, ce qui m'étonne, il ne parle que d'une tenue pantalon, polo et pull. Mais il ne parle pas effectivement de l'été. Quoi. Je suppose qu'il y aura une autre tenue d'été.
Oui, et puis qu'est-ce qu'il en sera des tenues parce que... Il va y avoir un package, mais qu'est-ce qui va en être après parce que ça va vite, les gens, ils grandissent,
ben
tout
que,
ça.
Voilà, c'est
et
ça.
Qu'est-ce qui va en être après des suites des tenues? Est-ce que les gens vont être obligés de racheter? Enfin, qui va prendre ça en compte?
Ben ça, on va le voir.
Ça, c'est
tout
pour l'instant l'expérimentation.
Tout à l'heure, notre ami parlait des uniformes déjà à la Martinique, en Guyane. C'est dans des régions quand même où le climat
Permet,
c'est vrai que j'ai des amis en Guyane, et ben c'est le short et puis le t-shirt, c'est facile.
Oui.
C'est facile d'imposer. Alors c'est vrai que avec des couleurs en fonction de l'appartenance à un établissement.
C'est ça.
Mais moi je voudrais en préparant cette émission, j'ai regardé des photos de classe. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion.
Oui.
Et j'ai des photos de classe quand j'étais élève et des photos de classe de mon père et de ma tante lorsqu'ils étaient élèves. Eh bien, ils portaient tous la blouse.
Ils portaient tous la blouse.
Oui. Et en fait, c'était quand même... c'était sympathique, ces blouses. Mais c'était dans les années 30, dans les années 50, 60, on portait la blouse. Mais il n'y avait pas d'uniforme.
Non, c'était la blouse.
C'était la blouse. Et ben, en dessous la blouse, et ben, il y avait effectivement diverses qualités de vêtements. C'était en fonction de... Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est l'état d'esprit dans lequel on veut imposer cet uniforme,
voilà,
cette tenue
c'est
unique. C'est ça le côté malsain, parce que pendant ce temps-là, pendant qu'on nous occupe
à ça.
Avec la tenue unique, eh bien, on fait passer un certain nombre de choses tout à fait... On retourne en arrière complètement et on ne combat pas l'absence de mixité sociale, on ne combat pas le séparatisme et on a une ministre actuellement... Je ne sais pas si elle va rester ministre longtemps. Elle est en plein dans le séparatisme. Donc...
Effectivement, ce que tu dis, on verra ça un peu plus tard.
Mais quelle est l'importance Là, je vois comme ça, la cotille, comment apposer un logo. Mais je ne vois pas l'importance d'aller.
Ah, ben c'est pour mettre en avant la ville aussi, parce que là, on va y venir en fin de compte, parce que pour l'achat de ces vêtements, pour l'instant, les gens n'ont rien, quoi, les parents n'ont rien à payer. Hein. Et c'est la question qui va payer cet uniforme. Hein. Donc, les familles concernées n'auront pas de frais supplémentaires. Le financement est prévu à moitié par l'État et l'autre partie par la ville. Donc, c'est une façon aussi de faire connaître leur ville. Ou par le département, ou par la région volontaire à cette expérience. Actuellement, tout est flou. Et ce trousseau est estimé quand même à 200 euros. Donc, quand on compte 25 000 élèves et que le trousseau estimé à 200 euros, ça fait quand même une belle petite somme.
Il y a une partie prise, pour l'instant, dans les discussions, il y a une partie prise en charge par les régions.
Par les régions.
Alors, mais jusqu'à où ça va être pris par les régions et jusqu'à quand ?
Et les villes.
D'autant que les collectivités territoriales voient quand même leurs ressources fondre.
C'est facile de dire.
C'est ça le problème.
Et moi, ce qui me fait rigoler, tout en étant un peu fâchée contre cette volonté, c'est que, en fait, quand on regarde dans le passé, puisqu'on se tourne de plus en plus, c'était mieux avant, donc on se retourne vers le passé, vers le 19e siècle, et on se rend compte, en fait, que les familles, lorsqu'il y avait des uniformes, si on regarde les photos, les familles avaient tendance à acheter des tenues trop grandes,
dans lesquelles, au
début de l'année, les gamins flottaient dedans, et puis à la fin de l'année, ils étaient plutôt ric-rac. Et là, on ne tient pas compte, parce que un uniforme, un package, un peu comme à l'armée, hein, qu'on donne à l'armée, quand on allait à l'armée, on ne grandissait plus en principe.
Fois, on partageait bien quand même.
Oui, c'était pas forcément adapté.
C'était pas forcément adapté, mais n'empêche, surtout pour les grands, pour les grands, la longueur des pantalons, mais enfin ça c'était un autre...
Moi je me souviens que mon pantalon il m'arrivait à quoi, 10 cm au-dessous du genou.
C'est une autre discussion.
Alors,
il n'empêche que c'est grotesque ce genre de... Si on réfléchit un peu, ça tient pas. Quoi.
Non.
C'est surtout, je pense, pour un état d'esprit qui est que nous, des DEN, on condamne.
On va en parler.
Mais petite question,
plus tard. Vas-y.
Ces vêtements-là,
oui.
Ils seront français ?
Alors oui, ça serait du Made in France.
Sûr ?
Oh, oui, ah ben, c'est ce qui a été noté. Hein. Donc du Made in France, peut-être qu'arrivera de Chine, j'en sais rien, mais
ben,
voilà.
Oui.
Hein. Juste, je voulais vous signaler quand même qu'à ce jour, il y a une dizaine d'établissements dans les Hauts-de-France qui sont déjà intéressés pour être volontaires, notamment à Crépy-en-Valois, le lycée professionnel Robert Desnos et à Beauvais, le lycée François Truffaut. Alors, il y en a d'autres, évidemment. Voilà. Alors, c'est tout à fait, de toute façon, ce que disait Jackie tout à l'heure. Hein. Au cours de l'année, les enfants grandissent, que ce soit en taille, en poids ou en pointure. Comment gérer cette problématique ? Comment renouveler les besoins en tenue vestimentaire ? Est-ce que ce sera toujours l'État qui va donc payer ? C'est vraiment un peu cette question de qui va payer. Alors, au départ, peut-être que ça va être très bien, mais par la suite, si c'est généralisé, je pense qu'en 2026, ce sera pour les parents.
Il y a aussi la notion, parce que si on va mettre l'uniforme, on va le mettre partout, aussi bien dans le premier degré que dans le second degré.
Bien sûr.
Ah oui, dans la maternelle.
Dans le premier degré, c'est les communes, théoriquement.
Ouais.
Second degré, c'est les départements-régions. Donc, le problème va se poser de qui va prendre en charge cela.
Au bout du compte, c'est les contribuables.
Voilà. Est-ce que chaque structure va avoir assez de financement pour prendre ça en compte ?
On n'a déjà pas assez. Les structures n'ont pas déjà de financement nécessaire pour l'école
déjà...
en général.
C'est ça.
Donc, je ne sais pas où ils vont aller chercher.
C'est déjà compliqué.
Mais ça, c'est de la poudre aux yeux. Moi, ça, c'est ça qui me...
C'est déjà compliqué.
Voilà.
Alors... Une petite question, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Pourquoi porter un uniforme ? Quels sont les avantages invoqués par notre gouvernement ? On nous parle d'appartenance qui va favoriser l'intégration de tous. On est ensemble, comme une famille, moins d'exclusion, on se ressemble, on fait un. Cette unité est-elle vraiment ressentie chez les jeunes par le biais d'une tenue identique ? Est-ce plus facile pour un enfant de se construire en portant un uniforme ? Souvent la jeunesse... Je pense souvent aux collégiens de 4e, 3e et aux lycéens, ne sont pas adeptes aux idées des adultes. Qu'en pensez-vous ?
Ben écoute, personnellement, moi, quand j'ai été dans un collège il y a seulement 3 semaines, j'ai posé la question à des enfants de 4e, là, juste avant qu'on termine.
Ouais.
Et contrairement à ce que je pensais, la majorité était pour.
Ah !
Parce que c'est nouveau.
C'est oui, voilà, il y a du
peut-être.
Nouveau.
Il y a aussi là,
c'est dans l'air du temps.
Voilà.
Donc,
peut-être, mais j'ai été surpris. Je pensais avoir un refus massif en disant on n'en veut pas, etc. Et par contre, j'ai remarqué que c'était la majorité des filles qui étaient pour Et les garçons étaient contre.
Oui, mais est-ce qu'ils vont prendre compte aussi de justement de cet uniforme? Quand ils vont leur montrer l'uniforme tel qu'il est, est-ce qu'ils vont être d'accord de me prendre ça, mettre ça? Ça, c'est autre chose.
Voilà,
parce que, comme toujours, est-ce que cet uniforme va être, comment dire, la création de cet uniforme, ça va être fait en concertation avec chacun?
Ah bah pas du tout.
Ah.
Pas du tout.
Donc, est-ce que les jeunes vont se l'approprier, cet uniforme? Ça, c'est autre chose.
Ben, je pense que ce n'est pas le problème du gouvernement qu'il s'approprie ou pas. Quoi.
Ils pourront faire comme en Martinique, hein, c'est les établissements qui décident
avec les élèves
et les parents. Voilà. Donc, si c'est du rouge, c'est du bleu, c'est eux qui décident. Est-ce que ça sera pareil en France? Ça, c'est une autre question.
Moi, j'ai une autre question, c'est qu'en parlant avec une maman, avec Luisa, justement, elle me disait qu'au collège, elle avait des problèmes avec son corps, etc. Donc moi, je me suis posé la question, lorsqu'un jeune a des problèmes avec son propre corps, il le cache avec des liquettes, des habits plus larges, est-ce que nous serons assez attentifs aux besoins réels des jeunes sur la taille de leur uniforme pour ne pas susciter du mal-être ni de drames psychologiques en surplus? Parce qu'effectivement, un jeune qui est mal dans sa peau, c'est pas avec un pantalon puis un sweat qu'on va cacher les formes, etc. Moi, je me demande, est-ce qu'on a pensé aussi à ces enfants qui ont des difficultés avec leur corps? Est-ce qu'on va être assez attentif, justement?
Je pense que ça, c'est pas un souci pour eux, c'est pas une question qui se pose.
Ah, mais pourtant, ça se pose, puisqu'on est dans l'école du bien-être.
Pour nous, oui. Mais l'école du bien-être, ils peuvent l'utiliser comme slogan, mais c'est pas du tout leur souci le premier.
Mm-hmm.
Parce que si c'était le souci premier, que l'école était le souci premier, la politique en matière d'éducation serait tout à fait autre.
Oui, mais là où on voit où l'éducation déborde un peu sur l'autorité parentale, hein, excusez-moi de dire ça, mais il s'imprègne justement du bien-être de l'enfant, ça c'est tout à fait normal, de la santé. Et là, est-ce qu'ils vont faire vraiment... Qu'est-ce qui va se passer si les jeunes ne sont pas à l'aise dans ces uniformes?
C'est la question de s'approprier ces uniformes, justement. Voilà. Si on leur impose un uniforme et qu'ils se ressentent pas bien dans cet uniforme, ça n'avancera pas à grand-chose.
Et si on veut vraiment un mieux-être pour les enfants, il faudrait que les enfants puissent exprimer leur mal-être. Il faudrait qu'ils puissent, dans les établissements scolaires, avoir des interlocuteurs qui aient le temps de s'occuper d'eux, qui aient le temps de les écouter. Or, on en est loin.
Oui, c'est vrai qu'entre les médecins, les infirmières, les psychologues scolaires, on manque de tout, en fin de compte.
Exactement.
Je pense que c'est ça aussi, hein, les personnes qui suivent bien tout ce qui est éducation nationale, quand on voit l'argent qui va être mis dans cet uniforme, on se dit, pour être mis autre part, et peut-être renflouer le budget de l'éducation nationale.
Le budget de l'éducation nationale, c'est Bercy qui le choisit, oui. Hein, donc il l'impose. Hein, donc là, actuellement, on nous parle beaucoup d'une diminution du nombre d'élèves. Oui. Et cette diminution du nombre d'élèves, ça va se maintenir. Il va y avoir
moins d'élèves. Classe.
Mais eh ben, on en parlera parce qu'il y en a beaucoup.
Au lieu de profiter de la diminution du nombre d'élèves pour permettre aux élèves de mieux pouvoir travailler, de mieux pouvoir être encadrés, eh ben, on supprime des classes.
On va avoir des classes avec moins d'élèves.
Ça serait l'idéal, effectivement. Oui, il y a beaucoup de suppression de classes. Hein. On va continuer un petit peu peut-être avant de passer l'intermède musical. Bon, on y va pour l'intermède musical, comme ça ce sera fait.
Piscine
Nous venons d'écouter Pulmarine, interprété par Isabelle Adjani. Notre thème du jour, l'uniforme, la tenue unique. Et pour cela, nous recevons Marie-France Contant, membre du Bureau fédéral des délégués départementaux de l'éducation nationale, DDEN, et présidente des DDEN de l'Oise. Sylvie ?
Oui, alors le Pulmarine qui habillera bientôt nos jeunes, voilà. Alors il est clair que dans un premier temps, cette idée lancée par Gabriel Attal, puis suivie par notre nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, était de mettre un barrage au harcèlement, à la violence, aux inégalités sociales, à un renforcement de la discipline. Mais avons-nous des études qui prouvent l'efficacité d'une tenue sur ces problématiques ? Et là, je vais laisser la parole à Jackie. Alors, concernant les inégalités sociales, la tenue ne changera pas les moqueries sur un sac à dos, le matériel scolaire ou une paire de chaussures, le manteau, hein, voilà. Il y aura toujours un élément qui va révéler le statut social d'un enfant. Et donc, on verra après avec les DDEN de quelle façon pourrions-nous effacer les inégalités sociales sans passer par d'anciennes convictions. Jackie, tu as pu nous faire une petite analyse rapide sur
l'efficacité, par différents sondages et études qui ont été, donc un sondage de l'UFPOST qui est un organisme et qui vient de fin d'année. 68% des Français sont pour la tenue unique, donc pour l'uniforme. Et 27% opposés. Alors, mais parmi ces Français, les 68%, ce sont les Français les plus favorables, ce sont les personnes âgées. Donc, c'est un peu quelque chose d'un peu contradictoire.
Oui, c'est les générations qui s'affrontent.
Voilà, c'est des faux. Mmh. Et donc, on voit aussi dans ceci différentes régions qui sont plus ou moins, qui s'approprient ce type d'uniforme, ces uniformes, mais qui ont déjà, notamment la région... dans le centre et Rhône-Alpes, mais qui ont déjà des sous-entendus derrière. Alors, il y a une autre chose, c'est une enquête PISA de 2014 qui a été faite par deux chercheurs australiens de Sydney. Dans l'ensemble des établissements mettant en œuvre l'uniforme scolaire, on retrouve apparemment, d'après ce qu'ils ont vu, dans certaines, on retrouve un climat de meilleure qualité, un climat d'études qui est plus positif. Mais l'uniforme n'est pas la seule cause de ce qui relève, c'est que l'uniforme n'est pas la seule cause de ce climat. L'uniforme partagé l'uniforme, il peut être partagé au niveau des projets scolaires. C'est surtout ça qui relève. C'est un plus. C'est l'établissement qui amène. C'est l'établissement par eux ce qu'ils ont relevé, c'est que c'est l'établissement en priorité par lui-même qui amène ce succès au niveau du climat. Et l'uniforme ne peut être que complémentaire.
D'accord, c'est selon les dispositifs scolaires mis en place.
C'est ce qu'ils ont relevé. Okay. Et ça relève aussi d'une éthique éducative qui encourage la réussite de cet établissement et la réussite des élèves. Ça peut être qu'un complément et qui est vu par l'établissement par lui-même et par une acceptation de tout cela et notamment de l'uniforme. Ça ne peut pas être cet uniforme dans ce qu'ils ont relevé, donc c'est aussi en grosse partie dans les pays anglo-saxons. Ce qu'ils ont relevé, c'est que l'uniforme ne peut être que complémentaire et une acceptation de celle-ci.
D'accord, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette analyse ? Tu en as peut-être une autre ?
Moi, j'en ai. Je sais surtout que. On est dans un système de communication à outrance. On communique, on communique, on communique. Pour occuper le terrain, pour amuser l'opinion publique. Ce que je vois surtout, c'est qu'un certain nombre de personnes, de personnalités politiques véhiculent à travers cette volonté d'uniforme. Ils nous disent vouloir symboliser une appartenance, un lien d'appartenance, un outil qui va gommer les différences sociales, les différences religieuses, les différences ethniques. En fait, on se retrouve face à des tentatives de vouloir retourner vers un passé qui était absolument magnifique. Il y a eu des tentatives par le passé, récentes, notamment sur Provins, où ça n'a pas suivi du tout, où les parents n'étaient pas d'accord. Et disons que ça a fait pchit très rapidement sur Provins. Ça a été lancé en 2016, je crois, et en 2018, ça a été abandonné parce que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas et dès l'instant où tout le monde ne participait pas, on n'arrivait pas à l'uniforme. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est l'empressement de certaines villes. Et ce n'est pas tout à fait par hasard. La mairie de Béziers, est favorable à l'uniforme. Nice est favorable à l'uniforme. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
voilà, c'est ça,
sont favorables à l'uniforme. C'est quand même pas forcément des gens qui ont des idées très très démocratiques, très très...
Est-ce qu'il y a des sous-entendus derrière?
Bah, bien entendu, c'est très très dangereux. Et moi je pense que les inégalités sociales que l'on veut cacher derrière l'uniforme, il faudrait aussi les gommer sur le terrain en donnant des réels moyens à l'école pour que ces inégalités sociales disparaissent vraiment. Et c'est pas par le simple biais d'un uniforme qu'on va régler le problème.
Alors moi, j'ai juste quelque chose à rajouter au niveau de l'uniforme. Effectivement, ça effacerait aussi tous les signes religieux.
Oui.
Le problème, notamment, on a vu...
Avec les abayas.
Avec l'abaya, voilà, mmh, tout à fait. Oui. Peut-être que c'est aussi une façon de cacher quelque chose en plus.
Mais tu sais que pour moi, l'uniforme serait quand même un avantage.
Ah, vas-y, dis.
C'est pour l'oral. Combien de fois j'ai vu demander à un élève de venir présenter ce qu'on faisait, mmh, devant ses camarades et qui n'ose pas se lever pour des raisons X, qui fait que, bon, souvent on a vu les gens qui commencent à rigoler parce que ceci, cela, alors que s'ils avaient tous l'uniforme, la personne, je pense, qu'arriverait à se lever parce qu'elle serait comme les autres.
Sous réserve que l'uniforme soit taillé sur mesure.
Oui,
voilà,
oui,
c'est
bien
ça.
Sûr,
oui.
Mais pour moi, ça serait quand même quelque chose de...
Parce que... De positif.
De positif.
Oui, à ce
mais
niveau-là.
Dans ce but-là.
Mais si l'uniforme n'est pas adapté vraiment comme il faut à la personne.
Oui, je pense.
Ah, non,
la stature,
sûr,
la stature de l'élève, ça va faire comme à l'armée pour les grands à l'armée, qui marchaient en premier. C'est ce que mes cousins me disaient. On marchait en premier parce qu'on était les plus grands, mais on avait les pantalons trop courts.
Ah, bah oui.
Donc, on était ridicules.
Moi, je me retourne encore vers Marie-France. J'avais posé la question, de quelle façon pourrions-nous effacer les inégalités sociales sans passer par d'anciennes convictions? En retournant en arrière, c'est vrai, on a l'impression qu'on a du mal à créer certaines choses. Et un pays qui ne crée plus, moi, ça m'inquiète.
C'est-à-dire que ça va tellement mal qu'on a le sentiment de dire que... de regretter le passé, mais enfin, je ne pense pas que ce soit en regrettant le passé qu'on va améliorer les choses.
Et puis les temps ont changé aussi.
Parce que les uniformes dans le passé, que l'on semble dire ça a toujours existé, non, ça n'a pas toujours existé. Les uniformes, c'était surtout pour les écoles militaires. C'était pour les écoles privées ou les lycées. Les lycées d'un certain niveau, les lycées huppés, les lycées d'élite, des lycées fréquentés par la bonne classe sociale. C'était ça, l'uniforme.
De toute façon, l'uniforme, il ne pourra pas lutter contre les inégalités sociales, ce n'est pas possible.
Bien sûr.
Est-ce qu'il faut lutter, est-ce qu'il faut justement revoir, c'est justement cette mixité, enfin, cette inégalité de territoire. C'est ça aussi qu'il ne va pas. L'uniforme ne pourra pas gommer les inégalités.
Exactement.
De territoire. Quand on va dans des endroits REP plus,
on va dans les REP,
éducation prioritaire.
C'est pas en mettant un uniforme que le REP plus sera disparaîtra.
Exactement.
Mais c'est là qu'il y a quelque chose.
Et c'est pas en imposant l'uniforme qu'on imposera à des jeunes filles qui veulent porter la baïa de ne pas vouloir porter la baïa. Ça, c'est pas comme ça. Je pense qu'au contraire, il faudrait mettre le paquet.
Alors, sur le site education.gouv.fr, on peut lire: l'objectif est de renforcer la cohésion entre les élèves et améliorer le climat scolaire grâce à cette tenue, mais aussi contribuer à créer une atmosphère de travail et d'égalité au sein de l'établissement et de valoriser l'image de l'école et de l'établissement en créant un sentiment d'appartenance et d'unité entre les élèves. Donc ça, Marie-France, tu y as plus ou moins répondu. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Non, pour le moment.
Non, non, non. Y a-t-il un message caché quand même dans cette tenue? Pourquoi absolument, d'un seul coup, on revient à cette tenue vestimentaire dès la maternelle?
Je pense qu'en fait, faut pas se leurrer. Enfin, c'est peut-être... je donne peut-être la mauvaise parole, je suis peut-être orientée, je l'assume complètement, mais notre politique actuelle en matière, en matière d'éducation, ça vient par la voix de Gabriel Attal, par la voix de la nouvelle ministre, ça nous vient, fait partie du domaine réservé du président de la République, qui est très fortement influencé par sa femme, qui a été professeur dans le privé, et c'est... toutes ces notions passéistes qui nous arrivent, ça vient de ce domaine-là, de l'influence des enseignements des établissements privés où effectivement il y avait peut-être une notion d'uniforme, mais les enfants qui fréquentent les établissements privés ne sont pas les enfants qui sont en ZEP.
Bien sûr.
Ou en REP. C'est pas... Il y a quand même une inégalité sociale criante, et ce n'est pas l'uniforme seul qui va gommer ces inégalités. Si on ne permet pas aux enfants de... Est-ce que l'uniforme, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être très beau un uniforme. C'est facile un uniforme lorsqu'on est en short ou en t-shirt, là c'est facile. Mais est-ce qu'il n'y a pas de longueur de pantalon ni quoi que ce soit? Mais les uniformes, lorsqu'avant il y avait des uniformes dans les établissements privés, militaires, où les parents avaient les moyens, c'était des uniformes sur mesure. Là, on va transformer les gamins avec des uniformes qui seront des uniformes de clowns, de guignols, s'ils ne sont pas adaptés.
Le problème, c'est que tout dépendra des régions.
Mais c'est pour remettre toutes ces dames à la couture.
On va en prendre des cours.
Oui.
Au niveau des DDEN, avez-vous fait part de vos revendications au gouvernement sur ce sujet ou à l'inspection académique? Est-ce que vous
De toute façon, on a déjà fait savoir. On a fait un sondage au niveau des différentes délégations départementales. Et pour le moment, l'ensemble des DDEN sont défavorables à ce projet. Il y en a très très peu, de façon très ponctuelle, qui disent oui, pourquoi pas. Pourquoi pas essayer, mais la grande majorité des DDEN sont opposés et affirment, comme je le dis moi-même, c'est qu'il y a autre chose à faire pour gommer les inégalités, pour améliorer ce que l'on veut apporter aux enfants dans les écoles.
Alors c'est vrai que nous avons peu de problèmes non résolus dans nos écoles. En voici quelques aperçus. Manque de professeurs, inexistence de la médecine scolaire dans les établissements, absence d'enseignants non remplacés, surtout dans le second degré, manque de prise en charge des élèves ayant un handicap ou étant en difficulté scolaire, dans le second degré, diminution de la dotation globale horaire qui va donc perturber les dédoublements de classe, il y aura moins d'options proposées, il y avait une heure d'enseignement ou d'accompagnement qui sera supprimée, des classes maternelles et primaires qui ferment partout en France, ce qui va impacter le nombre d'élèves par classe, des postes d'ATSEM qui vont disparaître et du temps individualisé qui sera donc réduit. Alors moi j'ai relevé dans l'Oise, on va avoir 63 fermetures de classes et on aura 19 ouvertures. Somme, 58 fermetures mais 12 ouvertures. Beaucoup d'écoles ferment, de classes vont fermer. Alors, problème de violence et de harcèlement, des cours d'empathie sont déjà créés pour les élèves. Qu'en est-il au niveau de la formation des professeurs à ce sujet-là? Les résultats PISA ne sont pas terribles. On arrive à la 23e place du classement sur 43 pays. On est donc entre l'Allemagne 22e et l'Espagne 24e. J'ai trouvé cette position très marrante parce que géographiquement et stratégiquement, nous sommes entre l'Allemagne et l'Espagne, justement. La pollution de l'air dans les salles de classe, il faut en parler. Ils sont donc pollués par le formaldéhyde et des moisissures qui auraient donc des conséquences sur la santé des enfants de 6 à 11 ans. Les chiffres énoncés sont très alarmants. Il s'agirait de plusieurs dizaines de milliers de cas d'asthme. Et il faudrait aussi parler de l'amélioration des repas dans les cantines, plus de produits locaux et bio. Je suppose, Marie-France, qu'il manque encore d'autres problématiques. Est-ce que tu as d'autres problématiques et quelles seraient vos requêtes en tant que DDEN pour améliorer le bilan controversé depuis quelques années?
Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. J'ai un exemple concret. Je suis DDEN dans un RPI du Valois et je participe au premier conseil d'école et j'entends les enseignants dire cette année... on a 18 élèves par classe, on peut aider les élèves qui sont en difficulté, on peut s'en occuper, c'est très bien, etc., etc. Et donc, ils donnent des exemples de ce qu'ils peuvent faire pour aider les élèves en difficulté. Et puis, au fur et à mesure du déroulé du conseil d'école, on apprend que l'année suivante, à partir du mois de septembre, comme il y aura une classe de supprimée, eh bien, on va se retrouver à 25 élèves par classe. Et moi, je pose la question, et comment vous allez faire pour les élèves en difficulté dont vous pouvez vous occuper cette année, mais l'année prochaine? L'année prochaine, on ne pourra pas s'en occuper de la même façon. Donc, c'est quand même sacrément un échec. Comme je le disais tout à l'heure, on diminue le nombre d'élèves diminue, et c'est une question démographique. Et même si on essaie de faire un réarmement démographique, comme le président s'amuse à nous parler... C'est pas comme ça qu'on va régler le problème. plutôt que de profiter de cette diminution d'élèves, si on décidait enfin une bonne fois pour toutes, de travailler autrement, d'aider les élèves en difficulté, parce que dans ces cas, actuellement, ce sont les élèves les plus fragiles qu'on laisse de côté. Et après, on parle des problèmes dans les quartiers ou autres, mais si on les abandonne quand ils sont à l'école, ces élèves les plus fragiles, après, on se retrouve avec des situations qui deviennent difficiles à gérer. Moi, je crois à une diminution du nombre d'élèves par classe. D'ailleurs, de toute façon, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire des dédoublements? Ils décident de faire des dédoublements dans certaines situations, et puis d'un seul coup, après, les élèves se retrouvent en gros effectif.
On le dit tout le temps.
Pour moi, le dédoublement, c'est une aberration.
Parce que c'est au détriment des autres niveaux.
Voilà, oui, c'est parti d'un bon principe.
Oui.
Moi, je le voirais plus quand on y va. Hein. C'est parti d'un bon principe, en dédoublant les CP et CE1. Mais c'est les élèves qui ont déjà des difficultés en CP1 avec un dédoublement, qui arrivent un peu à surnager, mais ils se retrouvent en CE2 à 26 élèves.
Oui,
donc là, ils vont replonger.
Bah, bien sûr.
C'est pas possible.
Surtout
il faudrait dédoubler l'ensemble du
primaire.
De ces classes.
Bah, il faut
il faudrait revenir entre
des effectifs.
16, vers les 16 élèves, 16-18.
Oui, mais il manque déjà des professeurs. Alors si on dédouble toutes les classes...
Bah, si on prenait la question à l'envers, pourquoi est-ce qu'on manque de professeurs? Les professeurs en France sont les plus mal payés d'Europe.
Oui, puis c'est un métier qui...
C'est un métier qui est très, très difficile. On ne nous donne pas aux enseignants la possibilité de travailler, d'exercer leur mission, parce que c'est une mission d'être professeur, hein, je peux vous le dire. Oui. Pour la... C'est vraiment... Il y a des collègues, ils n'en peuvent plus. Moi, je n'ai jamais vu autant d'écoles où on s'aperçoit qu'il y a des enseignants qui demandent une rupture conventionnelle de leur contrat de travail. Avant, c'était des notions qui étaient absentes de l'éducation nationale. Mais il y a des enseignants qui n'en peuvent plus et qui demandent une réorientation professionnelle parce que les conditions de travail sont difficiles, parce qu'ils sont démunis face à des enfants qui sont en grande difficulté et qui ne peuvent pas aider. Et au bout d'un moment, ou bien ils décident de dire on n'y peut rien, on s'en fiche. Et il y a peut-être des collègues qui finissent par dire je décroche, tant pis, je fais ce que je peux. Et puis il y a des enseignants qui n'en peuvent plus et qui demandent à se réorienter. Et tout ça parce qu'on ne leur donne pas les moyens sérieux de fonctionner. Alors on nous parle de l'apprentissage de la Marseillaise. On a appris la Marseillaise quand
c'était
on
déjà
est...
fait.
Hein, oui. C'était déjà c'était fait. Déjà... On nous parle maintenant de théâtre obligatoire, ça. Mmh. Merci Brigitte, encore, les cours de théâtre.
Le problème, on a l'impression que les programmes qui sont déjà chargés en primaire, au collège, au lycée, on les surcharge encore, surtout au niveau de la primaire. Petit à petit, on en donne de plus en plus aux professeurs. Donc, on ne peut pas tout faire. Et en plus, il y a les projets d'école. Oui. Donc, à un moment donné, c'est sûr...
Il y a les parents aussi derrière.
C'est-à-dire qu'avant... Avant, un enseignant, lorsqu'il sanctionnait un enfant, les parents suivaient. Maintenant,
Pour moi, c'est 50% des problèmes des professeurs.
Ah, c'est ça, oui, tout à fait.
C'est ça aussi, oui.
Donc, redonner quand même l'autorité aux enseignants, ce qu'ils n'ont plus. Et ils n'ont plus cette autorité parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Et puis parce qu'ils sont... avant, l'enseignant, c'était dans un village, c'était...
Oui, comme le maire ou le curé.
L'enseignant, il était secrétaire de mairie. Directeur de la poste,
si
était
trésorier. Comme ils ont envie de revenir en arrière, c'était bien le bon temps, etc., etc., les uniformes. Oui, mais revenons aussi au moment où les enseignants étaient respectés. Et là, ils ne le sont plus.
Mais ils ne sont pas appuyés non plus.
Oui, vous n'êtes pas soutenus, c'est vrai.
Ils ne sont pas respectés, ils ne sont pas soutenus, c'est évident. Parce que chacun... veut sa tranquillité. Les parents, ils achètent leur tranquillité avec leur gamin en disant, écoute, t'as été puni, c'est pas de ta faute, c'est de la faute de un tel, ou c'est parce que l'enseignant a pas compris. Et puis l'enseignant n'est pas forcément soutenu au niveau de sa hiérarchie. Un chef d'établissement qui fait beaucoup de conseils de discipline, c'est un chef d'établissement qui gère mal son établissement. Faut mieux mettre le couvercle sur le problème.
Là, j'avais fait toute une liste de des problématiques dans les écoles. Est-ce que Toi, tu en as d'autres à rajouter? Non, oui, peut-être comme au niveau des DEN, vous avez peut-être remarqué autre chose qui ne va pas dans les écoles, peut-être aussi, dans les établissements scolaires.
Je pense qu'on a déjà beaucoup... tu as déjà beaucoup
trop dit.
Non, tu n'as pas trop dit. Je pense que
aussi,
tu as...
Il y a aussi la formation des professeurs. Hein, la formation générale des instituts et des
oui,
profs.
Oui, parce qu'il faut savoir que le budget a été amoindri, si on peut parler comme ça, au niveau de la formation des professeurs.
Bah, à tous les niveaux. À tous les niveaux. On va nous dire que la formation, maintenant, c'est pendant les vacances. Hein.
Oui. Mmh. Récemment, j'ai vu un article là, dans un magazine, un article d'une personne qui avait une licence de sociologie, je ne sais plus, qui s'était présentée pour être prof. Il a été pris, bien sûr, bien sûr, il a été pris, et ils lui ont fait une formation de 3 jours.
Oui, tout à fait. Hein.
Enfin, il marquait là dans l'article, il disait j'ai eu une formation de 2-3 jours, mais une formation générale, oui. Donc qui n'est pas sur l'éducation. Et quand il a posé la question, la formation, faut aller sur Internet.
Oui, c'est ça.
Vous allez sur Internet, vous aurez tous les documents, tout ce qui est nécessaire au métier de l'éducation. C'est un peu étonnant, quoi.
Oui. Ça revient moins cher.
Mais j'aurais une question à vous poser à Marie-France. En tant que DDEN, vous êtes pour ou contre le redoublement?
Alors, un redoublement, en tant que DDEN ou en tant qu'enseignante? Moi, pour avoir vécu en tant qu'enseignante, les redoublements, le redoublement n'est pas bien accepté par l'élève, c'est une catastrophe.
Oui,
bien sûr.
C'est une catastrophe. Moi, j'ai de coutume de donner cet exemple-là. J'ai eu un élève en cinquième, il a triplé sa cinquième, les parents étaient totalement absents, donc on n'arrivait pas à voir les parents, le gamin n'allait pas bien, on n'arrivait pas à voir les parents. On a dit, à la fin de l'année scolaire de cinquième, on a dit, on va le faire redoubler. Les parents, ils vont peut-être réagir. Eh bien, les parents n'ont pas réagi.
Mmh.
Il double sa cinquième, toujours pareil, ça ne change pas. On dit, on va le faire tripler. Mais comme ça, on dit ça en rigolant, on va le faire tripler.
Oui, parce que ça ne sert pas à grand-chose, effectivement.
Mm. Eh bien, si, ça sert.
Ça sert
il a triplé, il oui. a triplé, et il a démarré.
Ah,
il a démarré. Mm. Au bout de 3/5, il a démarré, et il a fait une scolarité normale.
Normal, comme quoi.
Une bonne scolarité, parce que c'était le moment, peut-être, parce que... Mais le gamin, ça ne lui posait pas de problème. Il était bien au collège. Il était bien au collège.
Il
était bien avec ses
profs.
Donc, pourquoi pas, ça ne lui posait pas de problème. Par contre, un gamin qui considère le redoublement comme une punition, ça passe pas, quoi. Mmh. Ça passe pas. Alors, pendant un temps, on nous disait il faut pas faire redoubler, parce que ça coûte cher. Parce que c'est vrai qu'une année scolaire, si on mesure en rendement, on va dire.
C'est pas beau, hein, le rendement.
Oui. Bah oui, mais n'empêche que comme on est géré par Bercy, effectivement, on calcule qu'une année supplémentaire d'enseignement, ça coûte cher. Donc pendant un temps, on nous disait non, il faut pas faire redoubler. Et n'empêche qu'un enfant qui rate son CP, sa scolarité, elle est fichue. Mmh. Donc on n'a pas de position de principe sur pour ou contre le redoublement. Je pense qu'il faut...
Au cas par cas.
C'est vraiment au cas par cas. Et par exemple, moi, une chose qui me révolte en ce moment, c'est complètement insensé, quand on dit aux élèves de 3e, vous allez voir, si vous n'avez pas votre brevet, vous ne passerez pas en seconde.
En seconde.
Qu'est-ce qu'on va faire des gamins à la fin de la 3e qui n'ont pas eu leur brevet? Alors, ça peut aller dans le sens du poil, hein, de dire, si on est un petit peu... si on veut dire, il y en a marre de donner le diplôme à tout le monde, etc., etc., on ne donne pas le diplôme à tout le monde. Je pense que... Moi, j'ai eu mon certificat d'études et j'en étais fier. Et je pense que c'est dommage de l'avoir supprimé, le certificat d'études.
Ah, je crois qu'on l'a tous passé ici, hein, le certificat d'études.
Bah oui, mais
hein,
c'est parce qu'on est de la génération qui veut qu'on ait passé le certificat d'études. Mais n'empêche que il y a des gamins qui arrivent au brevet, ils n'ont jamais eu de d'examen, ils ont.
Non, il fallait apprendre la Marseillaise à l'époque.
Est-ce que toutes ces étapes d'examen, est-ce qu'elles sont assez valorisées? Parce que maintenant, en fin de compte, c'est banal.
Oui, c'est banal. Oui. Même le bac est devenu
banal. Ah
bah, oui, tout à fait.
Avant, c'était des institutions, tout ça.
Mais
c'était quelque chose.
Oui, ça, c'est sûr que c'est
et
pas...
c'était des cas pas passés voilà. aussi.
C'est pas du tout valorisé, bah c'est évident. Voilà. Mais beaucoup. Toujours parce qu'il y a un souci d'économie quelque part. Et puis parce qu'au lieu de voir dans chaque élève un futur citoyen, moi quand j'étais en classe, pour moi un élève c'était un citoyen en devenir. Pour les gens qui nous dirigent, un élève c'est un futur salarié. Point. Et c'est pas du tout... c'est pas du tout le même état d'esprit.
Avant de faire le billet d'humeur, du coup, j'ai une question à te poser. Le mot « unique » devient une référence. On nous parle d'une tenue unique, de collège unique, mais l'enfant aura-t-il le droit à un avenir unique, propre à ses choix ?
Ben non. Si un enfant qui n'a pas reçu la formation nécessaire, qui n'a pas reçu, je parlais tout à l'heure du CP, un élève qui rate son CP, il va traîner ça toute sa vie. En plus, au bout d'un moment, il n'aura aucune une mauvaise image de lui-même. Non, il faut, je pense, au contraire, l'enfant doit être unique. L'enfant, on doit le prendre dans sa spécificité d'enfant, le respecter. Et là, vouloir tout uniformiser, c'est pas respecter la personnalité des uns et des autres.
Et au niveau du collège unique, qu'est-ce que vous en pensez, vous, au niveau des DDEN, il va falloir donc que l'élève travaille beaucoup plus au collège, en fin de compte, soit un bon élève pour pouvoir aller au lycée. C'est ça, plus ou moins, en fin de compte.
Pour que l'élève puisse bien travailler au collège, il faut qu'il ait les moyens de bien travailler au collège. Il faudrait que les enseignants aient la possibilité de bien travailler aussi en tant qu'enseignant dans le collège ou dans le lycée, de toute façon. Il y a tout à repenser. C'est vrai que repenser l'éducation, c'est un énorme chantier. Personnellement, j'ai connu l'éducation depuis 1968, on va dire. On n'a connu que des réformes de l'éducation nationale. Il n'y a jamais eu un seul bilan de fait.
Oui, on en parle souvent.
On change les lois, on change le système, mais on ne fait jamais le bilan de ce qui a été fait pour dire... Ça a marché, ça n'a pas marché. Non, on change les choses brutalement, en fonction des lubies, parce que c'est des lubies qui nous viennent...
On empile des réformes.
Voilà, c'est on empile des réformes, et on se retrouve avec des situations totalement contradictoires, totalement confuses, ce qui fait qu'on n'est plus crédible, quoi.
On ne veut pas mettre les échecs à jour.
Oui, voilà, je pense.
Par exemple.
Jackie, c'est à ton tour, ton petit billet d'humeur. Allez.
Oui, billet d'humeur sur le... sur l'uniforme, enfin sur l'uniforme, enfin c'est pas un uniforme parce que nous à mon époque, moi c'était comme on disait tout à l'heure, moi c'était la blouse, mais qui moi en primaire qu'on portait constamment. Je le portais constamment. Alors, est-ce qu'il gommait les inégalités? Moi, à cette époque-là, non plus. Moi, je ne crois pas non plus qu'il gommait les inégalités. Non. Parce que dans la classe, on avait aussi des gens avec qui j'étais, mais qui étaient aussi de tous les milieux, hein, milieu populaire, milieu un peu plus aisé et autres. Ce n'était pas la chose. Par contre, moi, ce que je ressentais, c'est que nous étions plus dans la mixité. Il y avait plus de mixité de tous les endroits possibles, et là il y avait plus de on se retrouvait plus ensemble que maintenant. Il y a plus du tout, enfin moi je trouve, il y a plus du tout de mixité. La mixité sociale n'existe plus. Et dans l'ancienne,
il faut dire aussi qu'on parlait pas des inégalités sociales aussi.
Oui,
c'était pas un sujet.
C'était pas un sujet en avant à cette époque-là.
Mais il y avait autant de.
Il y avait aussi
un écart autant.
Autant peut-être.
Il y avait aussi dans l'ancienne de l'école, il y avait des règles qui étaient quand même bien établies, mises en avant. C'était surtout le respect. Le respect, l'autorité envers l'instituteur.
Oui.
Donc ça, c'était quelque chose et que. Oui. Dès le début, on savait, quand on rentrait en classe, quand on rentrait dans l'école, qu'il y avait ce respect de chacun. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque.
On avait peur de la maîtresse et des parents aussi. Hein.
Oui.
Et des parents. Mais les parents, à cette époque-là, chacun savait la place qu'il avait. Donc les parents avaient la place, ils pouvaient, mais chacun savait jusqu'où il pouvait aller. Mmh, et là, c'était quelque chose qui... je crois qu'il y a quelque chose à faire de
je pense qu'il faudrait pouvoir rappeler, et il faudrait que ça soit visible, que l'enseignant doit être une personne que l'on doit respecter. Et Dès l'instant que l'enseignant n'est pas respecté par rapport à son travail, qu'il n'a pas un salaire, parce que l'enseignant avant avait une position, parce que dans le village ou dans, dans le quartier, c'était reconnu. Une personne bien reconnue. Maintenant, ben, moi un jour, il y a un élève de ZEP qui me dit, moi être enseignant, mais attendez, vous gagnez quoi ? Vous gagnez quoi ? Et dans un monde où l'argent est roi, un élève qui est un peu marginal ou qui est borderline, on va dire, eh bien, il respecte les gens qui ont du pognon, quoi. Enseignant, ça ne gagne pas beaucoup. Donc,
Et c'est surtout que leur parole n'est plus prise en compte.
Tout à fait.
N'est plus reconnue. C'est ça qui manque aussi.
On n'est pas suivi, c'est sûr.
Alors c'est vrai que moi je me souviens, parce que tu parlais de la primaire, effectivement, moi je me rappelle, on était tous ensemble, on se parlait aussi bien, moi j'étais d'un milieu pas défavorisé, mais bon, je parlais très bien à des copines qui étaient, les parents étaient médecins ou dentistes ou autres. Et donc après, je me souviens qu'au collège, on a été différenciés justement, parce qu'on était plus, il y avait la 6e A, B, C, D. Donc on était plus, comment vous appelez ça, le mot m'échappe, mais c'est-à-dire que ceux qui étaient en 6e A, c'était les très bons élèves, donc c'était souvent les enfants qui étaient plus riches, et petit à petit, quand on descendait et qu'on arrivait en 6e E, c'était vraiment les milieux sociaux défavorisés. Donc arrivé au collège, c'est là qu'on a vraiment vu les inégalités en fin de compte, mais pas avant.
Tout à fait. Et là, c'est ce qu'on souhaite quand même. Ils souhaitent quand même revenir vers des classes de niveau. Et c'est quand même pas bon. Alors que si on met ensemble des enfants de niveaux différents, l'exemple montre que quand des gamins qui sont, si la classe a un mauvais niveau, en majorité, les autres vont être tirés vers le bas. Au lieu de faire des classes qui ne soient pas des classes de niveau, on peut tirer les enfants vers le haut.
Alors là, il y a quand même une contradiction, parce que quelque part, on nous dit l'uniforme, c'est pour effacer les inégalités sociales. On va vers un collège unique où justement, on va voir plus les inégalités sociales automatiquement, parce que de la 6e A à la 6e E, on va bien voir le statut social des élèves. Donc il y a quelque chose qui m'échappe.
Moi, j'avais imposé pendant un temps dans mon collège à ce que ça soit dans l'autre sens. On passait d'abord les meilleurs étaient en 6e E et les moins bons. Et ça avait créé un peu une révolution parce que les gamins qui se retrouvaient en 6e E alors qu'ils s'estimaient être au-dessus.
Et vous vous rappelez dans quel 6e vous étiez ou dans quel 5e ?
Ah ben nous, c'était. Non, mais.
Je crois.
Il n'y avait pas de non. A, de B, C.
Ouais, moi j'étais en 6e D, hein, c'était pas terrible.
Mais je vois par exemple dans un collège, à Noyon, il n'y a pas de A, B, C, D, ils donnent un nom.
Oui, voilà,
oui, tout à
c'est
fait.
Comme ça. Ouais, ouais.
Donc on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise classe.
C'est ça. Mais c'est mieux.
C'est nettement mieux.
C'est mieux, voilà. Que nous, à notre époque, voilà, on était classés déjà. Ah,
oui.
Voilà.
Oui, mais c'est quand il y avait eu les sixièmes de transition.
Oui,
les...
oui c'est ça, oui. Tout à fait.
Là, c'était la catastrophe, effectivement.
Alors j'espère qu'on va parvenir aux sixièmes de transition, justement. C'était à partir de la quatrième, je crois, non ?
Oh si, il y avait des sixièmes de transition.
Il y avait sixièmes de transition.
Ah, oui,
Alors, on nous parle beaucoup de la tenue unique comme étant un rempart à la discrimination, à la violence, à un renouveau pour la rigueur. N'y a-t-il pas une entrave à la liberté, à la créativité, tout simplement à la construction de son identité et de son moi ? Qu'en est-il exactement ?
Moi, je crois que maintenant, c'est dépassé, ça. Maintenant, la liberté, maintenant, ils l'ont avec tout ce qui est Internet, etc. L'école, c'est maintenant, pour moi, c'est un peu à part.
Complètement,
oui. Ça se joue ailleurs, maintenant.
Ça se joue ailleurs, pour toi, leur
oui.
liberté.
Ah oui.
Oui. Donc,
et les enseignants doivent gérer ce qui se passe à l'extérieur.
Mais la tenue, pour moi, ça sera bon. Ben, on la met à l'école, une fois l'école passée. Oui. On vit notre vie ailleurs.
Mais c'est de la poudre aux yeux, tout ça. Oui. Ça amuse l'opinion publique. Ça coûte cher parce qu'on va faire des enquêtes.
Des enquêtes, c'est ça.
Qui vont coûter très cher, qui vont servir à rien. Et puis, ça va aggraver encore un peu plus les inégalités sociales. Et c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire.
Puis en plus, ça monopolise la discussion en ce moment.
On ne parle pas du reste, c'est des problèmes qui sont criants. Ouais. Et moi, ce qui me gêne quand même, c'est le souci, c'est la volonté quand même de maintenir les personnes dans l'entre-soi, quoi. Parce que quand on parle de l'école privée, on n'en parle pas pendant ce temps-là de l'école privée. On essaye de se servir, de prendre l'école privée comme exemple, parce que c'est vrai que dans les uniformes, ça a été quand même pendant un certain temps la référence pour certains établissements privés. Mais il y avait un certain nombre d'établissements privés qui avaient l'uniforme. Mais les enfants qui sont dans les écoles privées sont des enfants qui vont dans le privé parce que les parents cultivent l'entre-soi, ne veulent pas que leurs enfants soient avec...
Quoi qu'on voit, quand même, il y a beaucoup de parents qui mettent de plus en plus effectivement leurs enfants dans des écoles privées, mais pourtant, socialement, ils n'ont pas beaucoup d'argent, voilà. Mais pour eux, c'est une façon aussi que leur enfant s'élève dans la société. Voilà. C'est une façon aussi...
Oui, c'est la tentative. C'est vrai qu'en plus, ça coûte, en fonction des revenus, ça ne coûte pas très très cher d'aller dans l'école privée. Mais le souci, c'est que quand on est dans l'école privée, si un enfant qui est scolarisé dans le privé, si jamais il ne répond pas aux attentes de l'établissement pour ses résultats ou pour son comportement, eh bien, la direction de l'école, l'établissement privé dit aux parents, en fait, on ne va pas pouvoir le garder. Ce qui fait qu'un enfant qui rentre dans un établissement privé en CM1, CM2, parce que si on veut être sûr qu'il soit pris en 6e, on a intérêt à le faire rentrer un petit peu avant. Mmh. Et si on voit que ses résultats ne permettent pas d'avoir le bac, eh bien, on l'élimine. Si en plus, il a un comportement qui dévie un petit peu, eh bien, on va dire aux parents, écoutez, on va être obligé de s'en séparer. Si vous le retirez pas, on va faire un conseil de discipline. Ce qui fait que, les parents, pour éviter le conseil de discipline, le retirent, le mettent dans l'établissement scolaire de secteur, et puis voilà, quoi. Donc, puisque j'étais dans un collège de REP, et avec un établissement privé reconnu sur Beauvais, où au mois de septembre, on avait... les enfants rentraient en 6e dans cet établissement privé. Et puis, à la fin du premier trimestre, on voyait des enfants arriver. Vous voyez des enfants arriver. Ce n'étaient pas les meilleurs qui nous arrivaient. Hein. Ils arrivaient avec toute l'appréhension qu'ils avaient par rapport à l'établissement de REP. Oui, on va se retrouver dans un collège de bandits. J'ai eu des expressions comme ça. Mais pourquoi tu viens ? Ah, parce que ma mère, elle ne voulait pas que je sois ici, quoi. Oui, mais pour finir, tu es là, quoi. Donc, tu te retrouves là.
Mais cette opposition en ce moment entre privé et public, est-ce que ça ne fragilise pas justement l'école publique en ce moment ?
C'est-à-dire que le souci, c'est que le privé a des moyens... c'est vrai que les enseignants du privé, les enseignants qui travaillent dans les établissements privés sous contrat, se sont payés comme les enseignants du public, c'est vrai. Ils ont des effectifs dans les classes qui sont importants dans le privé. Mais il n'empêche que dans le privé, ils ont des possibilités d'action qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. Que dans le public, un élève dans le privé, s'il se tient mal, on ne va pas lui faire de cadeau, on ne va pas le garder. Par contre, dans le public, on n'a pas le choix, on doit le prendre. Et si on le garde pas au bout d'un moment, on va le mettre... à l'extérieur, mais il sera dans un autre établissement où il y aura des problèmes, alors qu'on n'aura pas pris le problème à la base, à l'origine.
Mais il y a le même succès. Bon, alors c'est vrai que les parents mettent les enfants de plus en plus dans les écoles privées, mais même les écoles privées religieuses.
Oui.
De plus en plus. Mmh. Et dans ces écoles privées, notamment religieuses, on voit des classes pour les enfants autisme qui sont créés parce qu'ils se rendent bien compte dans le privé qu'il y a un manque au niveau du public.
De toute façon, c'est sûr, oui.
Alors moi, j'ai encore peut-être une dernière question. L'école est un lieu de diversité où chacun exprime sa différence. Est-ce que nous n'allons pas perdre l'image d'une école pour tous, où chacun s'émancipe selon ses propres critères et ses convictions ? Moi, je pense surtout aux jeunes collégiens de 4e, 3e et aux lycéens. Ou alors, est-ce qu'ils ont, ils se sont déjà émancipés ?
L'école pour tous, c'est un slogan, et moi j'y adhère à ce slogan, l'école pour tous, c'est magnifique. Mais si on ne donne pas à cette école pour tous les moyens d'apporter à tous les enfants ce dont ils ont besoin, ça ne reste qu'un slogan. Moi, l'école pour tous, le collège pour tous, je trouve ça magnifique. C'est bien que je fais partie de la génération comme vous certainement où on n'avait pas de concours pour rentrer en sixième. Je suis rentrée en sixième.
C'est ça, tout à fait.
Alors qu'avant, il fallait un concours, donc tout le monde n'allait pas. On n'allait pas au collège, on allait au lycée. On commençait le lycée, c'était dès la sixième. Je trouve que cette évolution-là, elle est excellente. J'en ai bénéficié, mais la massification doit être accompagnée de moyens nécessaires pour que ça soit réaliste et pas que ça soit une massification par le bas, quoi.
De toute façon, on ne peut pas se comparer ce qui se passait il y a quelques années voilà, ce qui se passe
changé,
à l'heure actuelle.
Oui, mais au niveau des effectifs, justement, je reviens toujours à la question des effectifs. Avant, on arrivait à fonctionner des élèves. Quand je vois les photos de classe dans les villages, on était 30, voire plus.
Il y avait des effectifs.
Et ça fonctionnait.
Oui, mais
et c'était des systèmes de classe unique. Et ça fonctionnait.
Alors, je ne sais pas si ça fonctionnait réellement. Parce
le niveau n'était pas pareil.
Le niveau n'était pas pareil. Mais moi, ma mère me dit qu'elle me racontait toujours qu'elle était dans un petit village. Oui. Donc là, ils étaient très peu d'élèves. Et quand ils sont arrivés sur Crépy, ils se sont retrouvés à 35 élèves. Et elle me dit, comme moi, j'arrivais d'un petit village, on m'a mis dans le fond de la classe. Ah oui. Et là, ça a été terminé pour moi. J'ai complètement perdu tout au niveau scolaire, quoi, tout ce que j'avais appris auparavant. On laissait quand même facilement les enfants dans un coin. Et maintenant, je me demande si ça ne revient pas justement parce qu'il n'y a pas le budget nécessaire à l'éducation nationale.
Le budget de l'éducation nationale, c'est un choix. Hein. C'est un choix. Si on décide... Si on dit chaque année, parce que c'est ce qui se passe quand même, chaque année, on dit il y a moins d'élèves, donc on supprime des moyens. Au lieu de dire il y a moins d'élèves, on en profite pour pouvoir aider les gamins, tous les élèves, les encadrer et les aider, eh bien, on évoluera dans le bon sens. Là, pour le moment, on voit la diminution du nombre d'élèves comme une source d'économie. On ne peut pas faire de l'économie en matière d'école.
Et on parle d'égalité des chances.
Oui.
Voilà. Ben, je crois qu'on a tout dit. On a été un petit peu méchants aujourd'hui.
Bon. Eh bien, notre émission se termine. Je remercie chaleureusement Marie-France
c'est très bien.
D'avoir participé à cette émission qui sera diffusée pendant le mois de février, le vendredi 9 à 19h, le lundi 12 à 16h30, le samedi 24 à 17h et le mercredi 28 à 2h du matin. Le prochain thème sera « Chouette, une nouvelle ouverture d'une classe SECPA ». Merci Luc à la technique. Chers auditeurs, si l'éducation des enfants et l'avenir des jeunes vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre et venez donner votre opinion à l'antenne. Contactez-nous par courriel sur le site de RVM à www.radio-6valois-6mulsien.fr. Au revoir.
Au revoir.
Ils sont marrants, cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé. Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français, faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'un grand et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface, même après l'hiver. Et mon voisin, me voyant, me dira bande de feignants. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un facteur. Et dire que je paye tous vos congés. Et puis vous êtes même pas bronzés, sans copie à corriger. 2-3 Prozac.